Lancer un nouveau média est un pari risqué, je n'apprends rien à personne. Mais alors, lancer un nouveau magazine papier l'est encore davantage dans un marché très dense. Près de 250 titres déjà répertoriés. Pourtant, c'est ce qu'ont fait ces derniers mois quelques jeunes entrepreneurs, convaincus des atouts de la presse, des revues en particulier. De jeunes revues donc, de jeunes pousses qui non seulement ont réussi à sortir de terre, mais qui ont également réussi à grandir et qui résistent à la crise actuelle. Comment font-elles? Quels choix éditoriaux, économiques ont-elles fait? Pour répondre à ces questions, deux invités, Sophie Comte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice avec Aurore Bisikia de Chute, avec un point d'exclamation, c'est pas une chute, c'est chute, C-H-U-T, revue qui parle du numérique. Le magazine à l'écoute du numérique, c'est son slogan. Avec nous également, avec vous, Lucas Bidot, bonjour.
Bonjour.
Lucas Bidot, pardon, vous êtes le directeur de la publication de Sphère, c'est au pluriel les Sphères, revue qui s'intéresse aux communautés, aux petites communautés, une communauté par numéro. Le dernier, le quatrième qui vient de sortir, ça parle des reconstitueurs. C'est quoi les reconstitueurs?
Les reconstitueurs, ce sont tous ces gens, vous savez, qui le temps d'une journée ou d'un week-end vont se déguiser et revivre des événements du passé. Ça peut être un poilu, ça peut être un soldat de la garde de Napoléon, ça peut être l'époque médiévale, enfin bref, c'est tout ça quoi.
Alors avant qu'on parle de Sphère en général, qu'est-ce qu'on trouve dans ce numéro précisément, spécifiquement?
Alors on trouve des personnages assez atypiques. On trouve Sajad Rover qui est un homme qui vit dans sa campagne, qui a reconstruit un modèle de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. On trouve des hommes comme ça, des passionnés. Ouais. On a fait une longue enquête aussi sur ceux qui incarnent le mauvais rôle dans la reconstitution historique, c'est-à-dire ceux qui vont jouer la Wehrmacht, par exemple. Pourquoi le font-ils?
Pardonnez-moi, les méchants, ce sont toujours les mêmes méchants?
Eh bien, c'est justement ce que vous direz dans la revue. Mais bon, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi ils font ça, ce qui les amène à faire ça. Et donc voilà, on a parlé de ça, on a fait un très long portfolio, parce qu'il y a beaucoup de photos dans Sphère, c'est le principe du print, chez nous, en tout cas, sur un costumier de l'époque Empire, qui refait notamment le costume du sacre de Napoléon, et c'est des pièces assez uniques.
Il y a aussi une rencontre avec un archéologue et un chimiste qui essaye de recréer les parfums qui étaient portés à Pompéi. Vous les avez sentis, les parfums?
Non, malheureusement non, mais c'est incroyable. On a rencontré Mylène Pardoin, par exemple, qui est une archéologue du paysage sonore. C'est-à-dire qu'elle vous fait revivre l'ambiance sonore du Paris du XVIIIe siècle. Ça, c'est fort.
Ouais, c'est fantastique. Zut, je regrette, on aurait dû avoir le son là maintenant pour faire entendre quel était ce son-là. Grand entretien avec Stéphane Bern, qu'on connaît
c'est
bien
vrai.
Ici.
C'est moi qui l'ai fait en plus, je suis fier.
Un mot sur Sphère que vous avez lancé donc il y a plus d'un an. L'idée de départ, c'est pas seulement un magazine historique.
Ah non,
aujourd'hui, ce sont les reconstitueurs, mais sinon, c'est quoi le principe de base de Sphère?
Eh bien, c'est d'aller explorer des petites communautés de passionnés, en général peu médiatisées, mais avec une identité très forte. On a fait les fumeurs de pipe, en premier numéro, qui a très bien marché. On a fait les plongeurs sous-marins, les pèlerins. Et donc là, on a fait l'univers de la reconstitution historique.
Vous savez quelles seront les prochaines communautés étudiées par vous?
Oui, la prochaine, ça sera le monde hippique et les cavaliers. C'est une communauté un peu plus grosse, mais vu qu'on grandit, on s'est dit qu'on pouvait aller là-dedans. Donc voilà.
Sophie Comte, je me tourne vers vous avec la même question. Que voulez-vous raconter dans votre revue Chute que vous aviez lancée également fin 2019?
Oui, alors en fait, au départ, Chute, c'est un magazine en ligne sur chute.media. Et puis après, on a créé le magazine papier il y a maintenant un an, donc un trimestriel qui est diffusé en kiosque, en librairie. L'idée de Chute, c'est de montrer la transformation numérique de notre société. Donc, c'est pas un enjeu pour nous anecdotique, c'est vraiment au cœur des grands bouleversements de notre société d'aujourd'hui. En fait, on voit les mouvements de société portés, par exemple, par les hashtags MeToo, MeToo Inceste, etc. On voit bien que les technologies numériques Internet, aujourd'hui, transforment profondément notre société, la mobilisation passe par une mobilisation en ligne. Ouais. Mais il y a aussi d'autres côtés qu'on aime explorer. C'est plutôt des aspects négatifs, en tout cas des aspects qui inquiètent, comme les fake news, le cyberharcèlement, la transformation des métiers de demain avec l'intelligence artificielle. Donc nous, on prend de la hauteur sur tous ces sujets de société majeurs de notre époque et on propose de prendre le temps de la réflexion avec un magazine papier.
Autre aspect négatif, la pollution, parce que le numérique, c'est formidable, mais également, ça pollue. Et vous n'éludez pas ce thème. Le thème aujourd'hui, c'est l'odyssée écologique. Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce numéro?
Alors, on a trouvé vraiment intéressant en effet d'explorer cette thématique de l'écologie dans le numérique, parce qu'on a entendu parler ces derniers temps de la pollution que pouvait engendrer l'envoi de mails et de pièces jointes un peu lourdes, le visionnage de vidéos, etc. Ouais. On avait envie de comprendre qu'est-ce qui pollue exactement. En fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a découvert que finalement, la pollution, elle est en majeure partie due à la fabrication de nos équipements, de nos smartphones, de nos ordinateurs, ordinateur.
C'est-à-dire les terres rares, par exemple, et tous les produits chimiques qui permettent de fabriquer ces voilà. matériaux très très complexes.
C'est l'extraction minière de ces terres rares qui est polluante. Et puis après, c'est aussi l'alimentation de nos produits, etc. Il y a également les data centers, donc ces énormes centres où, par lesquels transitent nos données, où elles sont stockées aussi, toutes les données du web, en fait, elles passent par des data centers. Donc ça aussi, c'est polluant. Et donc on a eu envie de comprendre d'abord ce qu'était la pollution et ensuite de voir comment est-ce qu'on pouvait, dès maintenant, finalement, réfléchir à une économie circulaire numérique responsable. Alors, comment est-ce qu'on peut... Voilà,
puisque vous parlez de circulaire, vous nous avez bien cassé le moral. Il y a un autre papier sur les produits reconditionnés dont vous dites ils ne sont pas si écolos.
Alors, ils sont écolos quand même. Si, si.
Ouais, vas-y, ils sont pas si écolos que ça.
Mais il faut rester alerte parce que, en fait, pour beaucoup, c'est des produits qui viennent de loin, notamment de Chine. Donc, il y a forcément un impact énergétique en termes de transport. Mais ça reste quand même moins polluant et clairement moins polluant. Hein.
Évidemment. Mais c'est pas impact zéro. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce qui nous a un peu scié les pattes. Sophie Comte, vous proposez, c'est une première pour vous, de lire vos articles en réalité augmentée. C'est normal parce que vous parlez de numérique. Comment ça se passe techniquement? Pour qui ne saurait pas, c'est quoi la réalité augmentée et qu'est-ce qu'on peut trouver via Chute?
Alors, la réalité augmentée, du coup, nous, ça nous permet de faire des passerelles avec le numérique, parce qu'on aime bien cette idée de créer des passerelles. On a aussi des podcasts, d'ailleurs.
Mais racontez d'abord ce qu'est ce qu'est la réalité augmentée. C'est, par exemple, vous arrivez devant un monument, vous avez votre ordinateur qui est connecté, et toc, on voit comment il était, par exemple, au Moyen-Âge.
Exactement, voilà. Nous, on propose, du coup, une autre expérience, une expérience enrichie de notre magazine. Vous pouvez scanner la couverture, par exemple, et l'illustration de la couverture prend vie en 3D. Ouais. On a également accès à d'autres types de contenus, des vidéos par exemple, des articles sonores, donc des podcasts. On propose de les découvrir via la réalité augmentée plutôt que de passer par un QR code par exemple. Ouais. Donc c'est une expérience graphique, une expérience d'art visuel plutôt, je dirais, qui ajoute une dimension de cette idée de créer des passerelles entre les deux mondes, les mondes numériques et un monde plus tangible comme l'est un magazine papier.
Alors, sujet très intéressant, l'un des articles concernés par la réalité augmentée, c'est un article qui concerne l'un de vos partenaires, et là aussi c'est le cœur de notre sujet, on est une émission média. Mm-hmm. Comment on finance des journaux tels que les vôtres? C'est la suite de cet entretien avec Sophie Comte et Lucas Bidot. Chute et le Sphère, on en parle dans Culture Média. En compagnie de Sophie Comte, c'est la cofondatrice de la revue Chute et Lucas Bidot, directeur de la publication de la revue Sphère. Sophie Comte, je me tourne vers vous. Je le disais, vraiment, papier très intéressant concerné par la réalité augmentée. Article qui concerne l'un de vos partenaires. Le point de vue de notre partenaire, écrivez-vous, c'est le titre de cette rubrique, en l'occurrence, c'est Microsoft. Vous interrogez deux développeurs de l'entreprise qui vous expliquent comment coder tout en respectant l'environnement. Et en scannant la page, on peut même les voir donner une conférence. C'est un article ou est-ce que c'est du publi-reportage?
C'est du publi-reportage, tout simplement. Nous, ça fait partie de notre business model aujourd'hui, effectivement, de proposer des articles partenaires. On essaie de le faire vraiment de la manière la plus transparente qui soit, c'est-à-dire qu'on a une couleur spécifique, un rose, qu'on peut vraiment identifier. Il y a effectivement écrit que c'est un article partenaire. On ne trompe pas nos lecteurs comme ça. Et c'est important pour nous, effectivement, de se développer avec ces articles-là, parce que on peut proposer pour les partenaires avec qui on travaille du contenu vraiment de qualité, ils prennent la parole sur des thématiques qui les intéressent. Pour nos lecteurs, on fait en sorte que ces articles s'insèrent vraiment dans l'expérience de lecture globale de Chute. Ouais. Donc il n'y a pas de rupture en termes de lecture.
Oui. Il y a peut-être une rupture avec la rédaction. Est-ce que vous avez checké les informations qui sont données? Est-ce que, par exemple, si les développeurs de Microsoft disent que c'est absolument formidable et qu'on constate que les faits ne correspondent pas...
On fait un travail éditorial ensemble, un travail conjoint pour vérifier et checker les informations.
Donc ce qui est dit a été validé par votre rédaction. Ouais. Combien de partenaires? Il y a 7 partenaires dans ce numéro, c'est ça?
C'est ça.
Tous les numéros, vous avez 7 partenaires seulement?
Non, pas forcément. Pareil, au niveau des pubs, on a quand même quelques pubs aussi. On en a parfois 2, parfois 3.
Vous dites quelques, on peut le dire très vite. Dans ce numéro, il y en a 3.
Voilà, c'est ça.
La première pour Creati, c'est une plateforme qui aide les entreprises à se développer. La seconde pour Mutual Benefits, chasseur de tête. Et la troisième pour l'un de vos partenaires, Atos, grande entreprise de services numériques. Comment vous financez? Donc les partenaires, la pub et les ventes. Comment c'est quoi le financement? Je précise, le numéro coûte 12 euros à l'achat.
tout à fait. Sur le magazine papier, il y a effectivement ces articles partenaires, des publicités, puis il y a également un sponsor, Epitech, l'école Epitech d'informatique, qui sponsorise nos articles sonores. Donc, c'est des formats audio de nos articles, de 5 articles issus du magazine papier. Mm-hmm. L'idée étant de proposer plus d'accessibilité, de confort de lecture à nos articles. Donc, vous pouvez choisir de lire ou d'écouter un article. Et voilà, on a également Epitech qui s'est joint à nous. Après, on a d'autres leviers, d'autres sources de revenus. Et on vend effectivement des abonnements. Hein, ça, ouais. C'est le...
Combien ?
On est à bientôt 1000 abonnés. Donc on est très fiers quand même. Pour un jeune média, au bout d'un an, avoir 1000 abonnés, il paraît que c'est bien. Donc ouais. On est contente.
Vous n'êtes pas encore à l'équilibre ou est-ce que vous êtes déjà à l'équilibre ?
On y est. On est en train de faire la bascule, disons. Donc oui, ça va.
Et les ventes, combien vous vendez ?
Alors, on distribue à 10 000 exemplaires en kiosque, en librairie. Voilà. Après, on vend aussi pas mal via notre e-shop, ce qui est assez étonnant, en fait. On vend beaucoup via Instagram, via Facebook. Et puis aussi, on propose à des entreprises. On a vraiment ce fonctionnement qu'on dit B2B. Hein. On travaille aussi avec les entreprises sur la création de contenu éditorial. Les prises de parole d'entreprises sur des thématiques qu'on aborde, nous, dans Chute.
B2B, ça veut dire business to business. Lucas Bidot, les mêmes questions. Dans le magazine, j'ai trouvé une seule page de pub dans le dernier numéro qui en compte 145. Même question qu'à Sophie Comte, comment financez-vous votre revue ?
Ouais, nous, pour le coup, on a fait le pari d'avoir assez très peu de pubs.
Ouais.
Et on a un produit qui coûte cher. C'est le prix d'un livre, à peu près, donc 20 euros pour le dernier numéro. C'est le pari qu'on a fait. On propose un produit print premium, assez haut de gamme et surtout qui se conserve dans le temps. Donc l'idée pour avoir un business à l'équilibre, ça a été de faire, donc, comme vous l'avez dit, des thématiques indépendantes qu'on peut ensuite valoriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des reconstitueurs qui arrivent sur Sphère, en général, pas tout le temps, mais souvent, sont forcément intéressés par les communautés précédentes qu'on a traitées. Et ce qui fait qu'on arrive à chaque fois à valoriser nos anciens numéros et donc à avoir assez peu d'invendus. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On a un produit évidemment cher, donc qui a son prix, et les gens achètent le 2, le 3 ou le 4, ça dépend. Ils viennent piocher un peu comme dans une bibliothèque, ils peuvent le conserver ensuite chez eux.
D'accord. Combien de numéros vendez-vous ? Ça dépend du thème et ça dépend de... Vous êtes à 4 numéros, on peut déjà commencer à faire une moyenne.
Ça dépend surtout, j'ai envie de dire, de la notoriété de Sphère. Là, ce dernier numéro, donc on a doublé le tirage, à peu près comme Chute, on tire à 10 000 exemplaires sur ce dernier numéro. Ce qui est un vrai coût, parce qu'on a un papier haut de gamme, donc ça coûte cher à imprimer, et surtout qu'on imprime en France. Et donc les précédents, on tirait à 5 000 exemplaires, légèrement moins, donc là on est passé à 10 000, et on espère aussi que les ventes en kiosque vont nous permettre d'atteindre le point d'équilibre.
Parce que sur les 5 000, qu'il faut dire que dans la presse écrite, il y a le tirage et ensuite les ventes, et il y a ce qu'on appelle les retours. Sur les 5 000, combien en avez-vous vendu ?
Sur la totalité ? Les 5 000, non, alors le numéro 1 qu'on a fait grâce à un crowdfunding, celui-là on n'a pas tiré à 5 000, on a tiré à 2 000 lesquels, il est parti.
Ouais.
Donc ça, c'est génial. Et les autres, à peu près, on peut dire qu'on a vendu à peu près, je dirais, 55 à 60% du tirage. Et il nous reste ensuite les invendus. Pour le coup, on les stocke, on ne les fait pas détruire. Non. Voilà. Ça, c'est la particularité. On les stocke parce que les gens ensuite viennent les acheter.
Et vous continuez à valoriser. Comment vous êtes distribué ? Où est-ce qu'on peut acheter vos revues ? Je vais vous dire le sens de ma question. Je ne l'ai pas trouvé dans une petite librairie. Donc du coup, je suis allé hier au Grand Relais de la gare de Lyon. Il n'avait pas vos magazines. Il n'en avait jamais entendu parler.
Ah mince !
Ah ben voilà, je vous le dis. Le Grand Relais, le plus grand de la gare de Lyon. Voilà, comment êtes-vous distribué ?
Effectivement, on est distribué en relais. On a un diffuseur qui sélectionne, qui cible les bons emplacements, en fait. Bon. Donc, on n'est pas. Il y a 20. Je crois qu'il y a près de 30 000 points de vente en France. On ne peut pas être partout. Ouais. Donc, il y a un ciblage en relais, maison de la presse, kiosque. Mais effectivement, nous, on vend quand même beaucoup via notre e-shop en ligne. C'est pour nous aussi plus simple en termes de gestion.
Je me suis adressé à vous, Sophie Bidot, mais c'était un vous de politesse. C'était Sophie Comte, pardon. Lucas Bidot également, j'ai pas trouvé Chute non plus au relais.
Ah bon ? Non, le Sphère, vous voulez dire.
Mais je vais y arriver.
Vous l'avez pas trouvé ?
Ben non, sinon.
En théorie, il y est. Ouais. Après, comme a dit Sophie, on peut pas être dans tous les kiosques, ça c'est clair.
Je vais même vous dire, la vendeuse n'en avait jamais entendu parler ni de Chute ni de Sphère, elle allait demander à sa responsable qui n'avait pas entendu parler ni de Chute ni de Sphère.
Ouais, mais
et je me suis dit, tiens. Ouais. Ça va faire des bonnes questions.
La notoriété se construit avec le temps, ouais. Et c'est vrai que pour les kiosques, ils nous découvrent aussi petit à petit. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est nos lecteurs qui connaissent déjà Chute, qui vont chercher en kiosque. Et c'est pas forcément...
Nous, c'est pareil. Et puis en plus, c'est le premier numéro qu'on met en kiosque. Ouais. Il est sorti il y a 5 jours. Donc forcément, on peut comprendre qu'ils connaissent pas, quoi. Ça, c'est clair.
Ouais. Quelque chose qui frappe, un point commun à ces deux revues, le papier est très très beau, la fabrication est très 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 belle. C'était un choix, c'était un pari. La seule façon de s'en sortir, c'est le premium avec de la qualité.
Voilà. Bah, c'est ce que je vous ai dit exactement. On fait un papier fabriqué en Italie, donc il coûte cher, et c'était le pari de la revue.
Même question, ouais, Sophie Comte.
Nous, on met vraiment un point important sur tout ce qui est graphique, visuel. On a beaucoup d'illustrations. On veut vraiment proposer une expérience de lecture forte, différenciante de ce qu'on peut avoir sur le web. On aime bien dire que sur le web, on picore avec un magazine papier, on explore. C'est un peu l'idée, voilà, d'avoir un beau magazine qu'on a envie de garder. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit que...
Et c'est peut-être le seul moyen de sauver la presse écrite, finalement, que de faire des beaux magazines qui se conservent plutôt que tous les magazines qu'il y a aujourd'hui. Il y en a beaucoup en kiosque qui n'est pas toujours de très bonne qualité.
Et je dois le dire, les deux magazines sont avec ce qu'on appelle un dos carré, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur une étagère et les garder, les conserver bien droit verticalement. Je m'adresse à tous les deux, il y a deux entrepreneurs qui se sont lancés avec succès dans la presse papier récemment, à qui on disait que ça ne marcherait jamais. Franck Hanez avec le groupe SoPresse qui édite SoFood, SoFilm et Society, qui a été le carton de l'été, notamment avec son enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, et Eric Fotorino, l'ancien du Monde avec le 1, Zadig, légende américain. Ce sont des exemples pour vous, voire des modèles.
Tout à fait, nous on s'inscrit dans cette lignée-là en fait, hein, de cette presse qui réinvente justement, comme je disais, une nouvelle expérience de lecture. Ouais, c'est vraiment des modèles pour nous.
Bah,
pour
le cabinet de modèles, sont
exactement. Bah, nous on sait qu'on est le plus proche des MOOC, donc, c'est-à-dire ce qui est fait. Donc les MOOC, c'est la contraction de magazine et book, ce qui est fait par Eric Fotorino, notamment avec America et Zadig, avec un contenu vraiment de qualité et une forme surtout premium. Et on pense que c'est ce qui peut marcher en tout cas dans les années à venir.
Merci Sophie Comte. Et je m'adresse aux gens du Relais Gare de Lyon. Mettez ces deux magazines parmi tous les autres parce qu'il y a une offre absolument pléthorique et c'est tant mieux. Chute et Sphère. Chute, le prochain numéro, le 5e, va sortir en mars au prix de 12€. Et Sphère, trimestriel un peu plus épais, c'est au prix de 20€. Merci d'avoir été avec nous, Sophie Comte et Lucas.